Radio Livre Dormir.
Radio Livre Dormir.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
Le matin, de 8h
à 10h, le jeudi matin.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
92.2
sur Canal Sud.
92.2.
Rencontre avec Emeline Combi autour du livre d'Emeline Combi et Mathieu Adam, Le Capital dans la Cité, paru aux éditions Amsterdam, le 19 mai 2022 à la librairie Terra Nova.
Bonsoir, merci à toutes et à tous d'être venus ce soir pour la présentation du livre Le Capital dans la Cité. Merci à Emeline Combi d'être venue jusqu'ici pour en parler et à Américo qui a initié, organisé le cycle qui nous pourrait la ville et qui est là ce soir pour animer la rencontre. Voilà, bonne rencontre.
Merci beaucoup. Alors, juste deux mots là pour lancer. D'abord pour dire que on devait être trois aujourd'hui. Mathieu Adam, donc qui co-coordonne ce livre, devait être là, mais immunodéprimé et la fin du masque dans les transports fait qu'il ne peut pas nous rejoindre puisqu'il ne peut pas utiliser les transports dits en commun. Voilà, ça c'est dit, c'est fait, c'est triste, mais c'est comme ça. Et ensuite, le cycle qui nous pourrit la ville, juste deux choses là-dessus. On a commencé mardi avec Antoine Guironnet sur le marché des métropoles, sur ce marché à Cannes où se vendent et s'achètent des biens immobiliers. Et on a touché la question de la financiarisation. Et on prolongera samedi en 8, c'est-à-dire non pas le après-demain, mais dans une semaine quasiment, avec Max Rousseau sur le Plus vite que le cœur d'un mortel, qui est un livre sur Cleveland et comment finalement une ville meurt aussi. Comment tout ce système de prédation et de propriété privée aboutit à la disparition de la ville. Je vous invite à venir. Ça va être aussi intéressant de voir au bout de ces processus ce que ça peut faire à un endroit, ce capital dans la cité. Et le lendemain, le dimanche, toujours au kiosque, à la fête du kiosque, il y aura la diffusion d'un documentaire radio sur une lutte toulousaine contre une autoroute qui devait passer le long des berges de la Garonne à la Dorade, qui aurait été un échangeur routier. C'est bien dommage, on circulerait beaucoup mieux en ville. Mais à cause de quelques utopistes écologiques, on se retrouve avec des bouchons et des joueurs de djembé sur la Dorade. Donc on en pourra en parler dimanche et ça sera peut-être l'occasion de parler des luttes urbaines en ville. Mais pour l'instant, je vais laisser la parole à Emeline pour parler du capital dans la cité. Vaste programme et merci en tout cas, merci beaucoup d'être là pour nous raconter ça.
Merci beaucoup, Américo. Enchantée. Donc, je suis Emeline Combi. Je suis géographe à l'Université Lyon 2. Et donc, j'ai coordonné cet ouvrage avec Mathieu Adam, qui est aujourd'hui chercheur CNRS à Lyon également. Alors, on dit coordonné puisqu'en fait, c'est un ouvrage avec 30 notices et 33 auteurs et autrices. Donc, ce n'est pas que notre bébé. Hein, c'est un produit collectif, comme la recherche d'aujourd'hui, qui est elle aussi collective. Sont des notices donc classées par ordre alphabétique et en plus il y a un index qui permet un peu de croiser entre les notices. Chaque notice est construite à peu près de la même façon si vous n'avez pas encore eu l'ouvrage entre les mains. Au début on a une introduction avec une définition rapide de la notion. Puis, et ça c'est important, des études de cas, toujours une, souvent plusieurs, des études de cas vraiment sur des terrains. Puisque une des particularités de l'ouvrage, c'est qu'en fait, il s'appuie sur des travaux récents de sciences sociales sur des villes réelles un peu partout dans le monde pour être dans une approche contextuelle. L'idée, ce n'est pas de dire que ça se passe partout de la même façon, c'est de dire regardez ce qui se passe là-bas, ça a peut-être quelque chose à nous dire sur nos villes ici ou pas. Donc c'est aussi pour raisonner un peu en décalage avec des villes très différentes. Alors il y a des villes françaises qui sont quand même un peu surreprésentées. Paris, Lyon, Toulouse est absente. Je me sens un peu honteuse de dire ça aujourd'hui, mais bon, voilà. Montpellier, enfin voilà, il y a plusieurs villes françaises, puis il y a aussi des villes européennes ou sur d'autres continents, donc, que ce soit, voilà, il y a des villes états-uniennes, mais il y a aussi, par exemple, Johannesburg, Nairobi, enfin voilà, on voyage aussi un peu. Donc, on a notre définition, une ou plusieurs études de cas qui vont expliquer ce qui se passe concrètement. Et puis, à la fin, on a toujours quelque chose sur, en fait, pour lutter contre l'idée que le capitalisme est inéluctable. Ça peut être des luttes, ça peut être des blocages. Donc, chaque chapitre, en fait, se clôt sur ce qu'on a appelé des alternatives, avec l'idée qu'on ne voulait pas faire un livre, entre guillemets, plombant. L'idée, c'était plutôt aussi de dire qu'il y avait d'autres possibles. Alors, souvent... parfois de vrais autres possibles, parfois des toutes petites alternatives, vraiment des fermons. Mais voilà, il y avait cette idée de sortir du capitalisme rouleau compresseur pour montrer comment on pouvait s'approprier différemment des espaces, des luttes et ainsi de suite. Autre élément, on voulait aussi faire un livre qui soit sympathique à lire. Donc, bon nombre de chapitres sont illustrés par des photographies prises par les auteurs et autrices sur le terrain. Alors en noir et blanc pour des questions de coût bien évidemment, mais voilà, ça, il y a aussi un côté un peu concret, visuel dans ce produit qui pourrait faire peur au premier abord puisque c'est quand même 460 pages. Mais finalement, c'est un livre qui se picore aussi. Hein, il ne s'agit pas de le lire du début jusqu'à la fin. Voilà, c'est un livre qui se picore avec des articles qui font à peu près deux fois un article long de presse. Donc, ce n'est pas non plus des notices au sens encyclopédique, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur la petite notice d'une page, on est quand même sur des choses un peu étoffées. Alors, le capital dans la cité, de quel capital on parle? On va peut-être commencer là-dessus. C'est un ouvrage, Mathieu dit toujours qu'il est œcuménique, alors comme il n'est pas là, je vais reprendre l'expression, c'est-à-dire que c'est un ouvrage plutôt situé en effet à gauche, dans les études critiques, avec voilà, tout un... quand même, voilà, des engagements, des positionnements scientifiques qui peuvent être un peu différents. Donc il a fallu se mettre d'accord sur qu'est-ce que le capitalisme, on va dire, entre nous. Alors il ne s'agit pas de dire que c'est une définition consensuelle, mais on va dire que c'est une définition à minima sur lesquelles tous les auteurs et autrices étaient d'accord. Donc on l'a défini autour de trois aspects. Premier élément, la propriété privée. Donc propriété privée des moyens et de production et de reproduction, incluant dans les moyens de reproduction tout ce qui a trait à la reproduction, c'est-à-dire aussi des questions de logement, voilà, tout ce qui a trait, on va dire, à ce qui permet la reproduction de la force de travail, notamment en termes d'aménagement et d'infrastructure. Deuxième volet sur lequel on est à peu près tous d'accord également, c'est la question de l'accumulation des capitaux, avec deux types de capitaux. Les capitaux fixes, donc les capitaux fixes qui vont... se fixer dans l'espace. Par exemple, un exemple du capital fixe, c'est l'immobilier. Et quand on dit immobilier, on a bien immobilisation du capital. Donc quand vous achetez, par exemple, un appartement ou une maison, vous immobilisez du capital. Donc ça, c'est du capital fixe. Mais ça marche aussi pour acheter une machine, voilà, des biens d'équipement. Et il y a également les capitaux dits circulants. Donc ça, ce sont les capitaux qui sont mis en mouvement par le système. Et donc, qu'est-ce qu'on note? C'est que dans un système capitaliste, l'accumulation est possible par la mise en circulation permanente des capitaux. Je m'explique. Si vous achetez un appartement, ça, c'est du capital fixe. Si vous le remettez en vente en faisant de la plus-value, vous allez faire circuler via cette plus-value du capital. Et c'est là où le capitalisme s'entretient, entre guillemets, se produit, se reproduit. Troisième élément, les questions d'organisation du travail et plus globalement de relations sociales, de relations de pouvoir, notamment marquées par le salariat. Donc, une fois qu'on est d'accord sur ces trois composantes du capitalisme, que sont la propriété, la circulation des capitaux et les relations sociales, notamment autour du travail et du salariat, comment on adapte ça à la ville? Comment on fait du capitalisme urbain? Et là, il y a une métaphore qui me semble intéressante qu'on reprend dans le livre, qui est inspirée, enfin, c'est une citation d'Henri Lefebvre qui dit « L'espace n'est pas comme un kilo de sucre. » C'est-à-dire que quand vous achetez quelque chose dans un endroit, ça va générer plein d'autres choses. Quand vous achetez un appartement, bah, ça va déterminer où vos enfants iront à l'école. Enfin, vous pouvez vous extraire de la carte scolaire, mais c'est déjà faire un choix en lien avec la localisation. Ça va probablement déterminer les commerces que vous allez fréquenter. Ça va déterminer probablement certaines relations sociales, des clubs, voilà. Et donc l'espace, c'est en fait ce que Lefebvre appelle comme la projection au sol des rapports sociaux. C'est-à-dire que nos rapports sociaux, nos rapports économiques s'incarnent dans l'espace. Et souvent, on a une vision de l'espace comme un support neutre. Le postulat de ce livre, c'est au contraire de montrer que l'espace, il est produit, reproduit, construit, notamment par le capitalisme. Quand j'ai dit ça, il faut quand même dire quelque chose. C'est donc que le capitalisme urbain, ça va être finalement la matérialisation de ce capitalisme en ville. Mais la ville peut exister sans capitalisme. C'est-à-dire qu'il y a eu des villes avant le capitalisme. Et il ne faudrait pas croire que ces deux objets ont leur destin intimement lié. On peut tout à fait imaginer des villes sans capitalisme, puisqu'il y a eu des villes avant le capitalisme. Donc, que dire du capitalisme urbain ? Premier élément, ce qui nous intéresse dans le livre, c'est les mécanismes d'urbanisation du capital. C'est-à-dire comment le capital va s'urbaniser, notamment par ses investissements de capitaux fixes ou de capitaux circulants. On a parlé d'achat immobilier, ça va être ce qu'on appelle de la rente foncière. Voilà, c'est ce type de mécanisme. Avec Antoine, vous avez vu la financiarisation qui s'inscrit très bien dans ces mécanismes d'urbanisation du capital. Quel grand acteur va investir dans des bureaux ? Est-ce que c'est un fonds de pension états-unien et autres ? Ce qui nous emmène à la deuxième entrée, qui est de la question de la sélectivité du capital. Le capital, il ne s'inscrit pas, il ne s'investit pas partout de la même façon. Ce qui génère toute une série de discours, ce que David Harvey appelait les villes entrepreneuriales, c'est-à-dire que des élus vont se retrouver à vendre leur ville, pensant que grâce à cela, ils permettront à des capitaux de venir dans leur cité. Donc cette question de mode de production, notamment autour de la sélectivité. Alors cette sélectivité, elle se porte sur des espaces, mais souvent, en fait, par écho, et ça rejoint ce qui était dit sur l'autoroute, ça va aussi sélectionner des pratiques. Est-ce qu'il vaut mieux qu'on ait une autoroute ou des joueurs ou joueuses d'ailleurs de djembé ? Et puis ça va aussi sélectionner des gens. Ce qui nous amène à une question fondamentale dans l'ouvrage, qui est celui de la désirabilité et de l'indésirabilité. Des villes pour qui ? Pourquoi ? Donc voilà, quelque chose qui est très très important à une époque où les élus cherchent l'attractivité, la métropolisation, tous ces grands termes autour de la sélectivité du capital. Ce qui nous intéresse également dans un troisième temps, c'est ce qu'on va appeler le capital symbolique. C'est de dire que des villes ont des spécificités matérielles symboliques qui vont aussi s'incarner dans le capital. Alors, il y a des exemples bien connus. Par exemple, si on dit un vin de Bordeaux, on a bien une référence à une ville, Bordeaux, qui nous met tout de suite dans un capital symbolique, c'est-à-dire dans un imaginaire d'un type de produit. Donc, ça marche très bien historiquement pour notamment des produits alimentaires, mais aujourd'hui, ça marche très bien aussi pour des quartiers urbains. On peut dire que ça va être la nouvelle city. Par exemple, à Lyon, là, il y a un quartier qui est en construction. Leur slogan, c'est « un air de Brooklyn ». Vous voyez comment on va récupérer des imaginaires urbains. Alors, ça vous fait rire, et vous verriez l'affiche, ce serait encore plus drôle. Dans leur représentation de ce qu'est Brooklyn, peu importe. Mais voilà, ça fait partie du capitalisme, c'est-à-dire de générer de la valeur autour d'imaginaires et de symboles. Dernier élément, la question du capitalisme comme un rapport de pouvoir qui est inégalitaire. Et donc, dans nos villes, ce qui est quand même un peu un fil rouge de l'ouvrage, je pense qu'on peut le dire, c'est qu'on voit apparaître une forme d'idéal autour de la ségrégation, ou en tout cas de la mise de côté, de la mise à part, de l'exclusion de certaines populations moins désirables que d'autres. Et donc on a toute cette réflexion autour de qui est désirable, pourquoi et comment ça évolue et comment, dans des contextes différents, la désirabilité peut également être différente. Une fois qu'on a dit ça, on a articulé notre propos autour, on va dire, de moments urbains, avec l'idée que souvent on dit « Ah, le capitalisme » ou « le capital ». Et en fait, il y a une déconnexion entre cette idée et ce qui se passe dans nos quotidiens. Et le postulat de l'ouvrage, c'était de dire « Le capitalisme, en fait, c'est ce que vous voyez au quotidien. Ce sont les paysages urbains que vous voyez. Ce sont les formes urbaines. En fait, le monde tel qu'on le fréquente, c'est un monde du capitalisme. » Et donc ça, c'était ce qui explique d'ailleurs les études de cas, les photographies. C'était aussi de montrer comment le capitalisme au quotidien se met en œuvre sous nos yeux. Alors, premier exemple, l'exemple souvent auquel on pense, c'est la ville industrielle. En effet, quand on pense à une ville industrielle, on voit bien cette relation entre l'usine, d'ailleurs on a pu parler de ville-usine, et certaines formes urbaines, on peut penser aux cités ouvrières, mais aussi aux jardins ouvriers. Là, on est bien dans une relation forte où... En lien avec le patronat, en lien avec le paternalisme, on a vu se développer des formes urbaines assez caractéristiques qui témoignent d'une urbanisation du capital. En effet, cette ville industrielle se comprend dans un contexte de progrès agricole et de progrès industriel et donc de fixation du capital en lien avec ben, justement ces capitaux qui circulaient et qu'il s'agissait de fixer pour générer de nouvelles plus-values. Alors, cette ville industrielle, souvent, quand on le voit depuis chez nous, entre guillemets, ben, on le voit au prisme de la désindustrialisation, notice qui est présente, hein, qui a été écrite par Antonio Delfini. Mais en fait, elle reste très présente, et notamment, je pense au chapitre de Marie Belot sur les migrations, puisqu'aujourd'hui, en Chine, ben, il y a toutes ces migrations internes vers des villes industrielles, les villes où ont été sûrement produites l'iPhone que je consulte au moment où je vous parle. Pleine de honte hein, en ayant conscience de ce que je fais. Mais voilà, donc l'idée c'était aussi de montrer que ce modèle-là existe encore comme héritage dans certains cas ou comme situation bien présente dans d'autres. Deuxième modalité d'articulation entre le capital et la ville, alors c'est des modalités qui se superposent, hein, elles ne se succèdent pas forcément, des fois il n'y a qu'une étape, il n'y en a pas deux, enfin voilà, on pourra revenir dessus. C'est ce qu'on a appelé la ville keynésienne, qu'on peut aussi appeler la ville du pétrole. C'est cette ville qui naît en France dans les Trente Glorieuses, dans l'après-guerre, et qui s'appuie massivement sur donc, le pétrole qui va recouvrir nos voies, l'asphalte, le pétrole qu'on va mettre dans nos voitures. C'est une ville notamment tournée autour de l'automobile. Une de ces conséquences de cette ville de l'automobile, ben, il y en a plusieurs. Il y a ben, cette création d'asphalte, les grands parkings, l'étalement urbain, les aménagements en périphérie. Et en effet, quand on regarde une zone d'activité, ben, qu'est-ce que c'est qu'un centre commercial ? Ce n'est qu'un immense parking avec des petites infrastructures commerciales au milieu. Donc on est bien dans cette ville du pétrole. Ville du pétrole qui est rendue possible également grâce à des politiques de l'État, et on l'oublie souvent, notamment tout ce qui est fait autour de l'endettement ou de l'accession à la propriété individuelle. On peut penser aux aides à la pierre et ainsi de suite. Donc cette ville du pétrole, en France, elle a été notamment beaucoup promue au nom des classes moyennes qui auraient envie de vivre dans leur pavillon. Et vous avez un chapitre sur la périurbanisation écrit par Anne Lambert qui revient sur cette périurbanisation, son histoire, mais également ce qu'elle a à nous dire aujourd'hui notamment au prisme de certains mouvements, comme les Gilets jaunes ou autres. Cette ville du pétrole, cette ville keynésienne, c'est une ville qui est tournée vers la demande. C'est-à-dire que les gens ont besoin de logement, et donc, pour répondre à cette demande, on produit cette ville-là. Apparaît un troisième modèle de ville, on est bien d'accord que ça peut superposer, qu'on a un cas, pas toujours les trois, c'est la ville de l'offre. Ce qu'on appelle parfois aussi la ville néolibérale. Sur la ville néolibérale, vous avez notamment le petit ouvrage de Gilles Pinson, qui est une synthèse qui peut être satisfaisante. Que dire de cette ville néolibérale ? C'est une ville où, généralement, les élus vont s'imaginer comme des entrepreneurs urbains. C'est-à-dire qu'ils vont vouloir vendre leur ville en considérant plusieurs éléments. D'abord en considérant que l'économie de marché est finalement le moyen le plus efficace de gérer la ville, ce qui ne va pas forcément de soi. En également réutilisant certaines catégorisations, par exemple le ruissellement, vous savez, le fait que les plus riches permettront aux plus pauvres d'être moins pauvres, ben, on a la même idée avec la ville. Si on attire des personnes riches, alors on va générer des emplois, des petits emplois ou des emplois un peu plus pérennes. Et donc, attirer certains types de populations, ce serait une façon de renouveler la ville, de la repositionner sur un marché. Que dire d'autre sur cette urbanisation par l'offre ? Résultat, c'est une ville qui va beaucoup s'appuyer autour de grands projets urbains et de communication. Chaque ville veut avoir son éco-quartier. Chaque ville veut avoir son grand événement également. Il faut attirer les Jeux Olympiques, capitale de la culture. Si on ne peut pas être capitale de la culture, ben on va être la ville verte. Vous voyez, on va chercher, en termes de marketing, à se distinguer. C'est l'ère des classements, c'est ce qu'on appelle parfois les rankings. On veut être la ville numéro un, soit pour les étudiants, soit pour les familles. On voit également apparaître, en parallèle de ces classements, ce qu'on appelle parfois le branding en anglais, c'est-à-dire l'image de marque. C'est là aussi où les villes vont développer des marques. La marque historique, c'est I Love New York. Vous savez, le I en noir, le cœur rouge et puis le NY. Ça se développe dans les années 70. Et ce qu'on note depuis, on va dire, le milieu des années 2000, c'est une appropriation par plein de villes de ce modèle-là. Donc à Lyon, on a Only Lyon, mais il y aurait I'm Amsterdam, Amsterdam. Bref, la ville devient une marque. Et on est bien au cœur de ce capital symbolique dont on a parlé au tout début. Ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que cette ville néolibérale, elle ne met pas du tout fin à l'étalement urbain. L'étalement urbain continue. En revanche, ce qu'on note quand même dans cette ville néolibérale, c'est souvent une dégradation des conditions de vie des classes plus populaires qui ont tendance à faire face à des phénomènes d'éviction, à être de plus en plus indésirables puisqu'elles ne collent pas forcément aux populations entre guillemets visées par les maires entrepreneuriaux qui sont généralement les investisseurs tels que vous les avez vus avec Antoine Guironnet. Également les PDG, les cadres, les étudiants et étudiantes. Pourquoi ? Parce que souvent, on considère que ce sont les cadres de demain. Et les touristes. Ça s'inscrit également dans cette mise en tourisme, que ce soit ce qu'on appelle les city trips, les voyages de deux jours en ville. Vous voyez, ça va dans tout cet imaginaire-là. Une fois que j'ai parlé de ces trois modèles de ville... Que dire de l'ouvrage ? L'ouvrage, il va couvrir plusieurs éléments, on va dire quatre grands éléments. Premier élément, des processus à l'œuvre dans nos villes aujourd'hui. Donc, par exemple, la financiarisation, la désindustrialisation, la création de la rente urbaine. Donc vraiment, voilà, des processus liés au capital dans la cité. Deuxième élément, on va avoir des entrées qui vont plutôt être de l'ordre de l'objet, de l'espace urbain. Qu'est-ce qui rentre là-dedans ? Les quartiers périurbains, l'espace sonore, je viens de faire une fusion intéressante, l'espace sonore, la Smart City aussi, par exemple, voilà, on a toute une série d'objets urbains. Troisième élément, tout ce qui est plutôt centré sur des rapports sociaux. Je pense par exemple au chapitre Indésirable, qui est coécrit par Melora Kopke et une personne anonyme, qui nous montre ce que subissent les populations qui sont catégorisées comme indésirables, dans un contexte, donc dans le cadre de cette notice qui est français, qui montre bien comment se met en place un ordre classiste, raciste, dans certaines politiques d'aménagement contemporaines. Enfin, il y a un dernier élément qui est un petit peu atypique, en tout cas un petit peu différent de certains autres ouvrages sur la question, c'est qu'on a mis l'accent sur ce qui pourrait être des critiques du capitalisme. Vous savez, on dit « Ah, mais avec le changement climatique, on voit que les villes sont intenables ou invivables. » Et en fait, nous, le postulat de l'ouvrage, c'était de dire, à la suite d'autres auteurs, on pense notamment à Boltanski et Capello, de dire que une des forces du capitalisme, c'est d'ingérer ses critiques. Et donc, dans l'ouvrage, on essaye de montrer comment le capitalisme ingère ses critiques. Je m'explique. On pourrait se dire, la ville n'est pas durable. Il faut produire des nouveaux modes d'habitat. Qu'est-ce qu'on produit ? On produit des écoquartiers. Et on voit bien comment, en produisant des écoquartiers, on ne s'extrait pas du système urbain, mais on reproduit de la rente urbaine, de la rente foncière, en permettant généralement de créer un nouveau marché urbain avec des biens qui seront vendus généralement plus chers que d'autres biens dans des îlots à proximité. Autre élément de la critique, on pourrait se dire nos villes sont inadaptées au changement climatique. Ce qui semble vrai, enfin, voilà, la vague de chaleur qu'on subit actuellement va dans ce sens. Ce qu'on montre dans l'ouvrage, et là je pense notamment au chapitre d'Annise Boyer sur la question de l'adaptation au changement climatique, c'est que le changement climatique, c'est un immense business. Et il s'agit pas, je ne suis pas du tout climato-sceptique quand je dis ça. Je dis juste que les climatiseurs, par exemple, elle explique dans cet ouvrage comment la ville de Phoenix s'est construite notamment autour du business du climatiseur. Et c'est par hasard, Phoenix s'est construit en plein désert de Sonora. Donc c'est une ville qui est quasiment inhabitable si on s'en tient aux ressources en eau, aux températures. Et en fait, c'est une ville qui a très précocement développé les climatiseurs. Et ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que c'est à la fois un business, mais c'est aussi un vecteur d'inégalité. Puisque aujourd'hui, à Phoenix, pour louer un appartement, le propriétaire doit vous mettre à disposition le climatiseur. C'est-à-dire, sinon, il n'a pas le droit de vous louer. C'est-à-dire que c'est un bien qui va avec l'appartement. Or, on note que plein de familles ne sont pas en mesure de payer la facture énergétique induite par ce climatiseur. Et donc, en fait, on voit bien comment s'est construit un business qui a des climatiseurs dans tous les appartements versus des inégalités sociales et environnementales de personnes qui ne peuvent pas mettre en route ce bien d'équipement qui est donc du capital fixe. Autre élément lié à la critique du capitalisme, c'est toutes les questions autour du numérique, que je vais peut-être un peu moins développer là, mais on montre comment on peut critiquer la Smart City, comment on peut critiquer les données. Je pense notamment donc, au chapitre écrit par Mathieu Adam et Hervé Rivano, qui montre bien, par exemple, comment vit une application comme Waze, que beaucoup de gens ont sur leur téléphone, cette application d'aide à la mobilité pour éviter notamment les bouchons. Et beaucoup de gens, en fait, méconnaissent tout à fait ce qu'est Waze et notamment les relations qu'a cette application avec les pouvoirs publics, notamment d'échanges, voire de ventes de données qui sont décrites dans l'ouvrage. Une fois qu'on a dit ça, je voudrais également insister sur le fait que ce livre, contrairement à d'autres qu'il y a sur le marché, n'est pas urbaphobe. C'est-à-dire que quasiment tous les auteurs et autrices vivent en ville. Et on n'est pas dans un idéal de retour à la campagne, en communauté autonome ou autre. On n'est pas du tout... autonome n'est pas le bon. En communauté, je ne sais pas comment les qualifier. Bref, l'idée, ce n'est pas de dire que la ville, c'est le mal, la Babylone et compagnie, versus la campagne, le bien et autres. On n'est pas du tout dans cette logique-là. Au contraire, on considère que bon nombre des problèmes sont transversaux. La pollution, certes, c'est peut-être pas les mêmes molécules qui vont polluer les poumons des urbains et les poumons des personnes qui vivent dans le milieu rural, mais force est de constater qu'il y a aussi des cancers environnementaux à la campagne et autres. De même que les questions de pauvreté ne sont pas spécifiques à la ville. On a aussi des problèmes de pauvreté à la campagne. Donc, on n'idéalise pas du tout la campagne. On ne dit pas qu'il faut fuir la ville. Ce qu'on dit plutôt, c'est comment vivre en ville. Et comment proposer des alternatives à quelque chose qui peut être en effet oppressant et autre. Et donc dans ce contexte-là, on a fait le choix d'ouvrir l'ouvrage autour des questions de droit à la ville. Alors c'est un vieux cadre conceptuel d'Henri Lefebvre. Et ce qui est intéressant dans ce droit à la ville, c'est qu'il y a trois composantes. La première composante, c'est... comment proposer une ville qui s'appuie sur une approche plus juste ? Alors, c'est un peu facile de dire ça, mais ce qui est important, c'est de montrer que, en tout cas dans l'ouvrage, on montre que l'usage des lieux n'est pas possible pour toutes et pour tous dans les mêmes conditions. Donc comment on repense cet usage des lieux ? Et il y a des alternatives. Par exemple, dans le chapitre verticalisation de Louise Dorignon, on voit très bien que souvent la verticalisation, donc ces grands immeubles, sont construits plutôt pour des personnes avec des moyens. Mais elle prend un exemple où y a une crèche, une école et autres. Donc on peut tout à fait... La forme ne détermine pas l'usage. D'accord ? Donc la question, c'est comment remettre l'usage au premier plan ? Comment s'intéresser aux personnes qui vont s'approprier, utiliser l'espace ? Ce qui est lié à notre deuxième enjeu, c'est la question de l'appropriation et des luttes. Alors par rapport à ça, cet ouvrage-là, c'est plutôt un ouvrage de diagnostic des problèmes. C'est-à-dire que ce n'est pas un ouvrage centré sur les luttes. Néanmoins, on aborde quelques petites luttes. Que ce soit la ZAD des Lentières, que ce soit ce qui se passe au VET. Bref, il y a plusieurs luttes qui ressortent, notamment, je pense, autour des questions de ville durable, d'agriculture urbaine, où ces questions-là sont abordées. Et puis enfin, il y a une dernière question qui est complètement ouverte à la fin de l'ouvrage, c'est comment mettre en œuvre ce droit. Et là, c'est un peu à vous de vous approprier l'ouvrage, puisqu'on le dit, c'est censé être des outils pour penser, et on l'espère pour agir également.
Justement, alors du coup, avant de laisser un peu la parole, merci beaucoup pour cet exposé qui, en tout cas, moi, me semble clair, mais on va certainement clarifier s'il le faut de cet espace, ce mode de spatialisation. Presque, il faudrait dire le capital et la cité, parce que c'est-à-dire qu'il infuse, il diffuse, il la fabrique, on est pris dedans. Vous amenez des outils pour penser, agir, et il y a une entrée qui n'y est pas. Et je trouve intéressante parce que c'est quelque chose qui est sans cesse mobilisé dans les luttes, c'est la question de la gentrification. Et je trouvais intéressant que justement tu développes sur cette question de pourquoi ne pas avoir fait d'entrée gentrification dans cette somme.
Oui, merci beaucoup. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas le mot gentrification, mais vous le retrouverez dans l'index. Donc, une des façons de lire l'ouvrage, c'est aussi de chercher dans l'index les mots qui nous intéressent. Et puis, voilà. Mais pourquoi il n'y a pas le mot gentrification ? Déjà, c'est un choix, ce n'est pas un oubli. Un choix dont on parle un petit peu dans l'introduction, qui est de dire qu'aujourd'hui, la gentrification sature l'espace, qu'il soit militant ou politique. Et à notre avis, ce mot-là joue un petit peu un rôle d'écran de fumée. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du tout de... Enfin, la gentrification telle qu'elle a été pensée par Ruth Glass en 1964 à Londres, on ne remet pas du tout en cause ce qu'elle dit, c'est-à-dire le fait qu'il y a des arrivées de populations qui entraînent le déplacement des populations historiques aux marges de la ville, enfin, ou en tout cas ailleurs, et que souvent, cette gentrification qui passe d'abord par les populations entraîne une gentrification notamment commerciale, c'est-à-dire qu'on voit changer l'offre de commerce et autres. Et en effet, ce qu'on note de plus en plus, c'est que tout devient gentrification. Par exemple, on va avoir un nouvel immeuble construit dans un quartier très aisé, et on va parler de gentrification, alors qu'il n'y a pas du tout de déplacement de populations populaires pour des populations plus aisées. Donc il y avait un peu cette idée que le mot gentrification, on l'utilisait à tort et à travers. Donc on pourrait se dire, raison de plus pour le définir. Mais en fait, ce qui nous semblait intéressant, c'est que souvent on utilise gentrification sans montrer les mécanismes à l'œuvre. Par exemple, il n'y a pas gentrification, mais il y a une entrée Airbnb. Et bien sûr qu'Airbnb est un acteur d'une forme de gentrification, mais je dis bien d'une forme, parce que les personnes qui viennent sur un Airbnb sont là de façon temporaire. On n'est pas sur les formes classiques de la gentrification. Normalement, il y a une installation pérenne dans le quartier. Mais on montre bien comment, donc ces travaux d'Anne-Cécile Mermet et de Ola Soderstrom montrent très bien comment Airbnb est un acteur, parfois un précurseur, parfois un suiveur de la gentrification. Donc il y a cet élément-là de dire qu'on va étudier des logiques plus fines. Par exemple, le chapitre reconquête des frondeurs urbains, là aussi, si vous rasez des quartiers portuaires pour créer des espaces plutôt retournés vers les loisirs, avec des consommations plutôt coûteuses et autres, on est bien dans une certaine forme de gentrification commerciale. Donc, en fait, quand on regarde l'index, il est très souvent cité, mais l'idée, c'était de rentrer à des échelles plus fines sur différents types de processus et différents types d'espaces pour un peu se détacher de ce mot. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'ouvrage, et ça c'est important en termes de genèse, il est venu d'une demande de militants, de militantes, mais aussi d'étudiants et d'étudiantes qui nous disaient « J'aimerais comprendre ce qui se passe dans ma ville, j'aimerais m'engager, je lis quoi ?» Et en fait, on ne savait pas trop quoi leur dire. C'est pas du tout pour dénigrer l'offre existante, mais bah, c'est vrai que si tu fais face à un problème, qu'est-ce que tu lis? On savait pas trop. Et souvent, ils nous disaient, je crois qu'il y a de la gentrification. Et là, on disait, il faut décortiquer de façon plus posée. Donc l'idée, c'était aussi, si on mettait gentrification, tout le monde allait lire gentrification, finalement, et aller oublier le reste de l'ouvrage qui correspond peut-être plus à ce qui se passe à côté de chez soi, ou en tout cas, contre quoi on veut agir. Donc voilà, c'était aussi ouvrir, puisqu'on considère que pour lutter, plus on est outillé, plus la pensée est diverse, plus on a de chances de comprendre finement ce qui se passe. Donc il y avait aussi cette idée-là, quoi. Ça répond
complètement. Peut-être. Est-ce que, du coup, peut-être on peut commencer une séance de questions. Moi, j'ai plein de questions, mais peut-être... Et il y a un micro, même, je crois, qui circule. Voilà, regardez, il y a un micro qui s'agite là-bas.
Merci beaucoup. Alors, sur le premier volet, sur la question des financements, donc il y a le chapitre financiarisation, qui aborde notamment le rôle de certains grands groupes, pas forcément immobiliers à la base, et c'est ça qui est intéressant, ça peut être des banques, ça peut être des fonds de pension qui achètent ces immeubles. Et là aussi, c'est intéressant parce qu'on voit qu'en fait, l'immobilier, c'est devenu un portefeuille parmi d'autres, au sens de portefeuille d'action. Et en effet, on essaie de décrypter ces logiques. Et puis ces logiques-là, en fait, elles peuvent être liées à d'autres choses. Alors, à mon avis, Antoine Guironnet en a peut-être parlé, mais ce qu'on se rend compte, c'est que par exemple, parmi ces acteurs qui diversifient leur portefeuille dans l'immobilier, il y a beaucoup de fonds de pension. Et dans un contexte de réforme des retraites décalée, il faut être bien clair là-dessus que la réforme des retraites risque d'avoir un effet plutôt d'accélérateur. Puisque ces acteurs-là vont en fait bénéficier, enfin, si on passe sur une retraite par capitalisation, il va bien falloir qu'ils placent leurs actifs. Et on sait aujourd'hui que l'immobilier est un des secteurs où ce type de groupe apprécie placer les actifs. Pourquoi ? Parce que globalement, l'immobilier, ça apparaît comme un marché assez stable. Alors pendant longtemps, on s'est dit, ah, mais c'est un marché résultat assez peu, comment dire ? On va pas faire du 10% par an. Mais en fait, finalement, l'avantage de l'immobilier, c'est que généralement, vous perdez peu et que même dans un contexte post-crise des subprimes et autres, alors pas dans tous les quartiers, mais souvent, on retombe sur un niveau... Enfin, on retombe assez bien sur les pattes, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a toute une série d'investisseurs, notamment étrangers, souvent des grands groupes qui ne sont pas liés à l'immobilier de base, qui investissent de plus en plus dans l'immobilier. Historiquement, c'était des acteurs qui avaient plutôt investi dans l'immobilier de bureau. Et maintenant, ils investissent allègrement dans l'immobilier de type appartement. Donc ça, c'est vrai. C'est un phénomène qui est en plein essor à l'échelle mondiale, qui est un phénomène majeur qu'on remarque. Donc ça, c'était sur le premier volet. Après, voilà, tout ce que vous signalez sur Lisbonne, bah oui, ça s'inscrit dans cette ville... c'est une forme de néolibéralisme, c'est-à-dire qu'en fait, on a vendu le tourisme sous l'angle du ruissellement. C'est-à-dire qu'on va faire venir des touristes pendant 2, 3 ou 4 jours. Souvent, c'est des séjours assez courts. Hein. On est sur du city trip, donc ils vont visiter une métropole européenne. On fait tout pour favoriser ça. C'est-à-dire qu'à Lisbonne, par exemple, vous avez des passes où pendant 4 jours, vous pouvez visiter tous les musées. Enfin voilà, on fait tout pour que ces personnes-là viennent sur une durée qui est assez faible. Et avec l'idée que ben, ces gens-là vont investir des capitaux, ce qui va générer des emplois dans le service, dans les emplois plutôt domestiques et autres. Et on est vraiment dans cette théorie du ruissellement. Sauf qu'en effet, le problème que vous décrivez, c'est celui de ça ruisselle où ? Qui est un peu la question qu'on a dans nos quotidiens aussi. Hein. C'est-à-dire que, oui, les capitaux y rentrent, mais bon, les serveurs, serveuses ne sont pas forcément bien plus mieux payés qu'avant. Comme l'alimentation est plus chère, ben, en fait, ils se retrouvent moins bien payés parce que le logement est plus cher, l'alimentation est plus chère, et ainsi de suite. Donc on est vraiment dans cette ville néolibérale qui se construit autour d'une attractivité, une attractivité pour l'extérieur, qui a en effet tendance à oublier les populations qui étaient déjà là. Et en effet, vous avez tout à fait raison. Ce qui est intéressant, souvent on dit « Ah, mais c'est la gentrification, c'est le remplacement ». En fait, c'est souvent des phénomènes qui sont assez insidieux et sur le long terme. C'est par exemple quand quelqu'un va décéder et va laisser son appartement, « Ah, ben on va le transformer en Airbnb ». Ou quand votre bail arrive à terme. Et en fait, c'est des phénomènes qui sont souvent très, très progressifs, mais qui, à échelle de temps moyen, c'est-à-dire 10 ans ou 20 ans, vont en effet bouleverser petit à petit le marché immobilier d'un quartier. Donc ça, c'était le volet tourisme et Airbnb. Et j'ai oublié la deuxième question.
La deuxième question
sur les 20%.
Sur les 20%. Ouais.
Alors, il y a plein de choses. Dans l'ouvrage, il y a un chapitre sur le renouvellement urbain, écrit par Clément Barbier, qui montre justement comment sont reconstruits à Hambourg et à Lille des anciens quartiers industriels. Quand on lit le chapitre, bon, alors c'est sûrement plus compliqué que ce que je vais résumer en deux minutes, mais la question, c'est aussi on reconstruit, on rénove pour qui ? Et ce qu'il montre, lui, c'est que on était sur des quartiers souvent industriels, donc avec des populations ouvrières, souvent d'origine, pas souvent, mais régulièrement d'origine étrangère. Et en fait, ce n'est pas forcément la cible que veulent les investisseurs derrière. Avec un risque qui est quand même que ces populations-là ne trouvent plus à se loger là où ils ont leur réseau de sociabilité, là où ils habitent, quoi, en fait. Et ce qui pose plein de questions, ça pose de nombreuses questions, notamment sur qui un investisseur veut bien voir dans son dans ses logements, quel type de logement on construit. Est-ce qu'on fait du logement étudiant, donc de type studio, ou est-ce qu'on fait du logement familial ? Enfin, il y a des vrais choix dans les types de logements construits. Et ensuite, qui va finalement commercialiser le bien ? Puisque, par exemple, on sait que les propriétaires sont souvent frileux et frileuses vis-à-vis de certains profils de locataires et ainsi de suite. Donc, dans l'ouvrage, il y a un chapitre vraiment sur le renouvellement urbain, comment on reconstruit la ville sur elle-même et comment on peut essayer d'arrêter en fait, de viser toujours les mêmes types de publics. Parce que, l'air de rien, souvent, l'offre qui est produite, elle reste encore hyper excluante. On pourra revenir sur la question du logement social après, mais il y a aussi la question, par exemple, de quelle place pour les personnes à mobilité réduite, quelle place pour les personnes âgées. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est assez fascinant quand on regarde des images qui promeuvent un quartier, il n'y a jamais de personnes âgées. C'est toujours des familles à vélo. Il y a une invisibilisation totale d'une partie de la population. Et qui va avec cette invisibilisation, c'est qu'on ne leur produit pas forcément des logements qui sont adaptés. Aujourd'hui, acheter un logement neuf, si vous voulez faire rentrer un fauteuil roulant dans les WC, c'est souvent compliqué, et ainsi de suite. Donc ça peut... En fait, ouais, il y en a beaucoup. Il y a toute l'offre ancienne qui n'est pas forcément adaptée. Et ce qui est intéressant, c'est que si on revient au cœur du truc, c'est que l'imaginaire, quand on pense la ville, il y a plein de gens qui ne sont pas présents dans les villes. Et ces gens qu'on invisibilise, ils ont et elles ont quand même leur place en ville, puisque ces personnes-là font vivre des quartiers. Au niveau du logement social, peut-être juste un mot. Alors, le logement social, dans l'ouvrage, c'est abordé à partir du Canada. C'est les travaux de Chloé Reiser. Pourquoi ? Parce que... On est peut-être un cran au-delà, puisque l'idée, c'était de montrer comment le logement social fait lui aussi l'objet d'investissement. Alors, en France, on a ça aussi. Hein. Le logement social, c'est pas que des acteurs publics. Il y a plein de bailleurs paraprivés et autres. Et donc, on a fait ce choix-là d'aller sur des villes où les investisseurs privés essayent de valoriser les logements sociaux comme un nouveau secteur de marché. Ça, c'est quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que si on respecte, ce qui n'est pas encore le cas, les taux de logements sociaux, ça va devenir là aussi un business, entre guillemets, puisqu'il y a une quantité de logements qui va être mis sur le marché, donc qui va s'occuper de leur mise sur le marché et surtout de leur location derrière. Et ce qu'on note notamment dans les pays, que ce soit au Royaume-Uni, que ce soit au Canada, c'est que de plus en plus, on a un logement social qui est social, c'est-à-dire avec des loyers adaptés. Et là aussi, on pourrait revenir en France sur les différentes catégories de logement social, hein, puisqu'il y a, il y a les trois tranches. Donc des loyers adaptés, pas forcément pour les plus bas salaires, hein, ça peut être des loyers adaptés plutôt pour les classes moyennes à inférieures. Et comment les acteurs vont essayer de faire générer du capital autour de ce logement social qu'on a pu croire épargné par le marché, mais qui en fait ne l'est pas forcément, voire pas du tout dans certains pays déjà aujourd'hui, quoi. Et par rapport au logement social, si on revient sur le cas français, donc les communes ont obligation de construire. Si elles sont très en retard, on va se fixer au pourcentage de création et non pas au pourcentage final. C'est-à-dire qu'on va regarder s'ils ont bien accéléré la production de logements. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder à l'échelle plus fine et notamment les types de logements sociaux qui sont construits. Par exemple, si on regarde dans les écoquartiers, oui, il y a les 20% de logements sociaux, ils y sont toujours. Néanmoins, on est souvent sur les logements sociaux de classe supérieure. Et on n'oublie pas qu'en France, la majorité de la population aurait le droit de postuler à un logement social, puisqu'en fait, la catégorie supérieure, la tranche supérieure, en fait, est au-dessus, enfin, correspond à notre revenu médian. Donc, en fait, souvent, ce qu'on construit, c'est quand même plutôt du logement social pour les classes moyennes et non pas forcément sur les classes inférieures. Et si on prend une ville, par exemple, comme Neuilly, qui est souvent stigmatisé comme étant très en retard, et c'est, enfin, je ne dis pas stigmatisé au sens, c'est faux, hein, c'est vrai, ils sont en phase d'accélération, mais en effet, ils construisent quasiment que sur les tranches supérieures, enfin, pour les revenus supérieurs des logements sociaux. Donc là aussi, je pense qu'il y a une réflexion à avoir, c'est que souvent on dit « Ah, le logement social !» Mais attention, rien qu'en France, il y a trois types de logements sociaux en termes de tranches, et c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pourrait croire au premier abord.
Et juste, j'aimerais ajouter quelque chose, parce que vous avez parlé de « on est face à un problème, il faut faire quelque chose », et c'est intéressant, c'est-à-dire qu'en gros, et c'est souvent ce qu'on nous dit, il faut attirer des capitaux parce qu'il faut réinjecter quelque chose, parce que sinon ça nous tombe dessus. Et ça fait longtemps que ce problème il se pose, parce que c'est pour ça qu'on a rasé les îlots insalubres dans les années 50, etc. etc. Mais la question qui ne se pose pas, ou la chose qu'on ne veut pas voir, c'est comment est-ce qu'on produit ces îlots insalubres ? Comment se sont produits le fait que n'ont pas été entretenues ces propriétés qui ont fait que finalement elles s'écroulent ? Et cette logique de la propriété dans laquelle on est tout le temps pris et qu'on rejoint toujours, c'est-à-dire ce capital qui tout le temps fabrique cet espace et qui tout le temps fait de la ségrégation. C'est-à-dire qu'à un moment, pour maximiser du profit, à un moment, il va falloir enlever. Si on bloque les loyers, eh ben, on va arrêter d'entretenir. Si on n'a que des loyers bas, eh ben, on va arrêter d'entretenir, etc. etc. Et les processus aujourd'hui, les processus des quartiers aujourd'hui qu'on va juger en mauvais état, etc., c'est toujours une production. C'est pas un résultat incompréhensible, etc., c'est une production. Et après, on nous amène des solutions, que ça soit l'ANRU, à un moment, il faut injecter, il faut détruire, il faut etc., mais qui tout ce temps fuient le problème, à mon sens, à un moment principal, auquel on tourne autour comme le nez au milieu de la figure, c'est la propriété privée. C'est-à-dire la propriété privée amène un problème permanent à la question du droit à la ville ou du droit à l'espace. C'est-à-dire depuis les enclosures, quoi. Depuis qu'on a expulsé les paysans écossais de leurs terres, je veux dire, cette question-là, l'abolition des communs, cette question-là, elle est venue perturber la possibilité d'habiter quelque part. Parce que ce dont on parle, au final, c'est la forme ville, mais c'est l'espace dans lequel on habite. Et cet espace dans lequel on habite, parce que on a introduit la propriété privée, et ça a été un travail d'introduire la propriété privée. Ça a été un travail qui a été fait, ça a été long d'introduire la propriété privée, de dire en fait la terre, ah ouais, en fait on pourrait se la vendre. C'est pas venu comme ça tout de suite, hein, cette idée-là. Et cette idée-là, elle traverse en permanence, et en permanence on se cogne dessus. Et donc effectivement, à un moment, on peut dire « Ah ouais, Lisbonne est en train de s'écrouler parce qu'il n'y a plus d'argent, parce que t'as... » Et donc il faut amener des capitaux privés, et puis on est un peu pris de court, et puis ça a des effets négatifs, etc. Mais en fait, on a un vrai problème au départ, c'est qu'on a abandonné ces endroits, etc. etc. Alors ce n'est pas le seul problème. Mais je trouve intéressant de revenir aux trois points que tu as fait au début, c'est-à-dire la propriété privée, un, deux, alors j'ai oublié parce que je n'ai pas tout bien révisé, mais il y en avait trois, et c'est toujours important de se dire que quand les problèmes arrivent, l'espace est déjà une production. C'est-à-dire que quand le capital arrive à Lisbonne, sous la forme de Airbnb, il a déjà déserté, d'une certaine manière. On a déjà laissé tomber parce que c'était pas valable. Ce qui crée des opportunités, c'est parce qu'un espace s'écroule que il y a peut-être la possibilité de faire encore plus d'argent. D'accord ? Donc c'est parce que la ville industrielle abandonne des espaces qu'on peut faire des fronts de mer intéressants, etc., et avoir une rente de situation. C'est parce que, etc., etc.
Oui, ça c'est important. Il y a la propriété, puis il y a la multipropriété, qui est encore une autre question qui, à mon avis, aussi en fil rouge quand on pense investisseur, Airbnb. Parce que, voilà, la propriété, c'est la base du capitalisme. C'est un problème. Mais quand on rentre dans la multipropriété, alors là, on ne va pas être dans du salariat, mais on va être dans du versement de loyer, et ainsi de suite. Et vous voyez comment c'est une forme de capitalisme. C'est le fait de payer son logement à quelqu'un pour avoir le droit de vivre, en fait. Et c'est vrai que si on revient sur les trois composants du capitalisme, il y a la propriété, et le volet 2, c'est l'accumulation par circulation des capitaux. Donc, si on est dans un modèle où des multipropriétaires et autres renouvellent la ville, leur seul intérêt capitaliste, c'est que les capitaux circulent. Ce n'est pas l'intérêt du propriétaire qui veut acheter sa maison, qui, lui, veut fixer son capital. Vous voyez, moi, si demain, je décide d'acheter une maison, je veux fixer mon capital. Je ne cherche pas forcément la plus-value tout de suite. Ce n'est pas du tout la même logique que quelqu'un qui investit, qui met en fait en circulation un capital pour générer une plus-value. Dès que vous faites circuler du capital, il y a cette idée de mise en mouvement et de reproduction, d'une forme de multiplication du capital. Et ça change beaucoup de choses. Et dans le livre, quand on a le chapitre sur la périurbanisation, il ne s'agit pas du tout de stigmatiser les gens qui font le choix d'acheter une maison. Parce qu'en fait, ce qu'on montre dans le livre, ce que Anne Lambert montre, c'est que beaucoup de ces personnes-là qui se tournent vers le périurbain aujourd'hui, un certain nombre, sont en fait des gens qui ont été retoqués du logement social, qui font face à des problèmes de racisme. Et on a un extrait d'interview qui est particulièrement prenant à mes yeux, qui est de dire quelqu'un qui dit « Le banquier, il ne regarde pas ma couleur de peau. » C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément les moyens de se payer un pavillon, qui a été retoqué dans le logement social et qui fait face à un racisme structurel quand il candidate auprès de propriétaires. Et donc, qui fait le choix de se mettre en difficulté économique pour acheter un pavillon parce qu'au moins, il a un logement pour lui et sa famille. Et il ne faut pas oublier ça, c'est que souvent, on a aussi un imaginaire du propriétaire périurbain, blanc, classe moyenne. Et en fait, ce qu'on montre dans l'ouvrage, c'est qu'il y a aussi toute une partie des personnes qui ont été qui se voient sortis du centre-ville par le racisme, par le fait qu'ils n'ont pas de garant, par le fait qu'ils n'ont pas deux ou trois fois le salaire du loyer. Et ben, ces gens-là, ils sont quasiment forcés à acheter. Et il y a des photos assez prégnantes où on voit bien que limite les fenêtres se touchent entre les deux pavillons. C'est-à-dire que voilà, parce que ces gens-là en fait sont coincés. Et finalement, dans ce cas-là, la propriété finalement est une solution face à la multipropriété qui est excluante. Mais voyez bien là où on en est, quoi. C'est-à-dire que on est sur des gens qui ont le droit au logement social, qui font face à du racisme, qui font face et qui se disent, ça va être compliqué, mais on n'a qu'une solution, c'est d'acheter, y compris dans le périurbain, avec des frais de transport qui vont être énormes, une perte des relations de solidarité, donc ce qui met souvent les femmes je parle de femmes parce que ça va être souvent des questions de travail domestique, qui vont devoir garder leurs enfants, qui n'ont plus des amis pour s'en occuper. Enfin, tout ça, ça génère aussi une dislocation des liens sociaux, qui est à mon avis aussi très importante. Parce que ce qu'on voit dans le chapitre périurbain, c'est que ce sont souvent les femmes, notamment, qui vont générer ce surplus de travail domestique, parce qu'elles vont devoir prendre la voiture pour faire des courses au supermarché plus loin, elles vont devoir aller entre plusieurs sites pour s'occuper des enfants, elles n'ont plus la famille, elles n'ont plus les amis, ainsi de suite. Donc là aussi, la multipropriété, à mon avis, est un des nœuds du problème. Et on en est au stade où des gens qui ne souhaitent pas devenir propriétaires se retrouvent quasiment forcés à l'être pour avoir un logement. Et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est au quotidien, le logement, il y a l'alimentation et le logement. Quand vous avez une famille, c'est les deux priorités. Et je pense que voilà, par rapport à ça, l'ouvrage aussi essaye d'être nuancé. La propriété, dans certains cas, c'est la seule solution de s'en sortir. Ça complète, à mon avis.
Tout à fait. Juste pour préciser quelque chose, il n'y a pas de question directe. C'est que il y a cette question de propriété, il y a aussi la mise en circulation des personnes. Et ça, c'est intéressant parce que dans la construction du périurbain, le périurbain, il existe aussi parce qu'à un moment, on a des voitures et des routes. Et donc, il y a tout un tas de terrains qui ne valaient rien à un moment et qui valent plus parce qu'à un moment, il y a une route. C'est-à-dire, on décide, etc. Et là où ça fait aussi le joint avec Lisbonne, c'est que ça devient intéressant parce que il y a des avions qui arrivent et qui sont pas chers. Et donc, on peut amener du monde. Et que cette production de l'espace, elle est à la fois un rapport à des choses qui sont fixes, à l'immobilier, etc., mais aussi à la circulation des personnes et à ces circuits, etc. Et effectivement, l'espace, hein, pris comme un tout, est consommé et mis au travail pour retirer de la plus-value, et ça devient intéressant d'envoyer des gens à Lisbonne, et du coup, voilà, et ça fonctionne. Et c'est pour ça que c'est... et ça rejoint cette idée de ne pas tout voir sous un angle de gentrification, c'est-à-dire de remplacement, c'est de se dire, c'est complexe, et du coup, comment est-ce qu'on attaque ces choses complexes tout ensemble ?
Alors, juste aussi, je pense qu'il y a aussi un point qui est important, qui rentre dans toute l'explication que vous donnez, c'est évidemment le cadre juridique qui permet tout ça. Parce que quand on vous écoute, on a l'impression d'entendre qu'il y a la production de l'espace, qu'il y a le capital, les capitaux, les fonds d'investissement, voilà. Mais que du coup, il n'y a pas de cadre finalement. Alors que tout ça est permis par des politiques publiques qui s'inscrivent à plein d'échelles, de la locale à la nationale à l'européenne, et qui permettent ce type de production d'espace. Moi, je travaille sur le cas barcelonais. Bon, voilà, ce qui se passe à Barcelone aujourd'hui avec le logement, ce n'est possible que parce qu'il y a un cadre juridique qui l'autorise et qui même l'encourage.
Oui, clairement. C'est vrai que j'ai plutôt insisté sur les élus, les maires entrepreneurs, mais clairement, l'État joue aussi ce rôle de facilitateur. Historiquement, déjà, par exemple, si on prend les autoroutes, il y a eu un rôle de l'État, même si après, il y a eu la libéralisation et ainsi de suite. Mais il y a eu un rôle de construction d'infrastructures qui est fondamental. Et en effet, après, il y a la question du réglementaire ou du législatif. On a parlé des 20% de logements sociaux et de la SRU. Mais en effet, là aussi, parmi les solutions, en tout cas les alternatives proposées dans l'ouvrage, il s'agit aussi de remettre certains acteurs politiques face à leurs responsabilités. Une des questions où c'est peut-être le plus visible actuellement, c'est Airbnb, où en effet, ça commence à faire tâche. Donc, il y a de plus en plus de maires, d'élus municipaux qui disent « on va s'occuper de la question », ce qui pose plein de problèmes. Mais on voit bien que, en effet, il y a la question de nos modèles politiques, de problèmes qui sont soulevés à juste titre par les citoyens et citoyennes, et quelles solutions politiques on apporte. Donc sur Airbnb, ça voit où la puissance publique essaye un peu de s'emparer de la question, même si pour l'instant, il n'y a pas forcément de solution clé en main, mais en tout cas, il y a un discours majoritaire qui est de dire que ça pose problème dans les villes. Mais en effet, il y a plein d'autres, il y a plein d'autres domaines où la réglementation pourrait être plus stricte, pourrait être tout à fait différente. Moi, ce que je veux retenir de l'exemple Airbnb, c'est qu'on voit bien, via cet exemple-là, que c'est grâce à des pressions citoyennes que des élus s'emparent du problème aussi. Et je pense que par rapport à ça, toujours dans cette idée que ce n'est pas juste un rouleau compresseur, il faut aussi se dire que toutes les luttes ne sont pas vaines, et que certaines permettent au pouvoir en place de jouer leur rôle de régulateur ou plus. Et par rapport à ça, je pense qu'il faut en effet être très clair. Le discours politique majoritaire du ruissellement, il est clairement questionné par des citoyens et des citoyennes qui se rendent compte que ça ne ruisselle pas. Et dans certains cas, arrive à demander des réglementations. Mais bon, l'exemple d'Airbnb, c'est un peu l'exemple où ça marche. Il y a plein d'autres endroits, par exemple, je pense au logement social, où il y a des mobilisations pour faire appliquer le droit au logement et ainsi de suite, qui quand même, sont pas suivies de fait. Donc il y a aussi ce contraste entre, par exemple, d'un côté, on a la loi, le droit au logement, versus qu'est-ce que vous nous offrez, quoi. Parmi les questions chaudes du moment, il y a la question de l'encadrement des loyers dans certaines villes, là aussi. L'encadrement des loyers, ça sous-entend un contrôle par la puissance publique. Donc il va falloir contrôler pour de vrai. Donc on voit bien que les citoyens et citoyennes arrivent à pointer des problèmes, des fois pris en charge par la puissance publique, mais la question c'est après, il faut que les promesses entre guillemets soient suivies d'actes et finalement presque contrôlées en permanence par les citoyens et citoyennes. Ce qu'on a aussi autour des 20% ou autres, c'est souvent les citoyens et citoyennes qui disent non mais là c'est pas possible ou ainsi de suite. Donc c'est vrai que clairement, tout ça, ça fait système, quoi. Et bien sûr que les acteurs politiques je parle de l'État, mais on pourrait même monter à d'autres acteurs politiques à d'autres niveaux, joue un rôle, quoi.
Oui, vous avez parfaitement raison. Et d'ailleurs, la propriété est, c'est un système juridique, quoi. C'est pas, ce n'est rien d'autre au départ qu'une question juridique, quoi. Et vous avez parfaitement raison, quoi. C'est, si on a eu l'impression de dire autre chose, c'est juste qu'on n'était pas clair.
On se rend compte que quand on parle de capitalisme, on a l'impression que c'est un peu une nébuleuse qui marcherait en parallèle, un peu hors sol, et qui serait un rouleau compresseur. Et en fait, bon voilà, ça, c'est systémique, c'est comme ça, on n'a pas de solution. Mais par exemple en Espagne, récemment, jusque même en 2014, par exemple, il y a une loi qui est passée qui permet aux bailleurs et aux propriétaires de casser des baux locatifs à destination de logements. Sans raison apparente et en augmentant les prix sans seuil. Bon, on est en 2015, on est en pleine crise du logement en Espagne, parce que la crise économique en Espagne, elle est amplifiée par la crise du logement, avec tout un phénomène des expulsions sans alternative parce qu'il n'y a pas de logement privé. Et alors qu'on est censé être dans un moment politique, collectif de prise de conscience, la loi, des lois apparaissent qui facilitent la force du capitalisme. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut, je pense, qui est important dans les études urbaines.
Et je peux vous poser une question, du coup, si vous travaillez sur le cas barcelonais. Le changement, l'arrivée à la municipalité, est-ce que ça a changé quelque chose?
Oui. Oui, parce que bon, la Barcelone 2015 a été une activiste pour le droit au logement, donc ce n'est pas anecdotique, surtout dans la deuxième ville d'Espagne. Et oui, ça change quelque chose parce que l'habitat est la priorité du gouvernement, enfin municipal, de l'administration municipale. Mais en fait, l'action municipale, elle est toujours précédée par l'action militante. Elle arrive toujours en réponse et elle n'a pas beaucoup de compétences. Donc, elle a permis de placer le logement en tant qu'objet politique et enjeu géopolitique. Donc,
voilà. Merci.
Mais ouais, dans ce que vous dites, il y a un truc qui me semble important. Et enfin, on sort d'une campagne présidentielle. Le logement, c'est une question politique. Mais on arrive à faire une campagne présidentielle sans quasiment parler de logement. Et en effet, ça, c'est quand même un... Enfin, moi, je trouve qu'on n'en a presque pas parlé, quoi.
Ah oui, non, je suis d'accord, mais il parle pas de politique.
Je pense que ça, c'est vraiment un des nœuds du problème. Et il y a un autre élément que je retiens dans votre discussion. Et souvent, le capitalisme, j'aime bien l'idée de nébuleuse que vous abordez. Et en effet, notre idée, nous, c'était de bien montrer que le capitalisme, en fait, c'est ce que vous voyez tous les jours, au quotidien. Enfin, c'est très concret. Il faut arrêter de faire comme si le capitalisme, c'était des grandes idées et autres. Non, c'est ce que vous vivez. Et nous, c'était vraiment notre postulat, c'était de dire aux gens, enfin aux personnes en tout cas qui sont intéressées par la question, vous êtes déjà dans le capitalisme, même si vous ne vous posez pas forcément la question. Donc c'était aussi de remettre au cœur de nos vies, entre guillemets, quels impacts ça a. Et je pense qu'en effet, il faut sortir du capitalisme nébuleuse. Non, le capitalisme, c'est concret, c'est spatialisé. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos quotidiens.
Oui. Donc moi je voulais parler. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Bon, effectivement, vous avez bien mis l'accent sur les logements sociaux, qu'effectivement, les logements sociaux qu'on fait ne répondent pas au problème qu'il y ait des logements très sociaux, puisque c'est à Toulouse, c'est exactement pareil. On fait toujours des logements qui ne correspondent pas à la demande. Voilà, ça c'est le gros problème. Ensuite, une chose qui me semble aussi importante, alors, je ne sais pas si vous l'avez mis l'accent sur votre livre, c'est le fait que le bâtiment est aussi à un coût écologique énorme et qu'aujourd'hui, la manière qu'ils ont de gérer, parce qu'effectivement, la personne disait tout à l'heure qu'il faudrait rénover, mais sauf que la rénovation, eh bien, ça demande des compétences. Ils ne demandent pas que de l'argent, il faut des compétences. Et aujourd'hui, malheureusement, dans le bâtiment comme dans d'autres secteurs d'activité, malheureusement, les compétences ont disparu et quand on veut rénover de l'ancien, eh bien, on ne peut pas rénover de l'ancien comme on rénove du moderne. Et donc, il faut d'autres connaissances. Puisque moi, en plus de ça, je suis restée pendant 11 ans à faire un truc. Je me dis, ça ne sert à rien, en fin de compte, parce qu'on travaille sur des normes qui ne correspondent pas à la réalité. Et surtout, il n'y a pas de contrôle, donc du coup, ça ne sert à rien. On te dit qu'il y a un contrôle, en réalité, ce n'est pas vrai du tout. Donc, pour ma part, il me semble important de dire, parce que ça, vous l'avez commencé à le soulever, le fait qu'effectivement, que la population doit se prendre en charge, quoi, et doit se dire, on ne veut pas de cette manière que la politique est faite aujourd'hui. Bon, à Toulouse, vous ne connaissez pas trop, mais en réalité, c'est une super gentrification qui est faite. Mais aussi, on a un problème démocratique. Parce que, comme il s'est fait au niveau national, on a des élections qui ne correspondent pas à la réalité. On truande les élections, on fait de la fraude, parce que maintenant, ça devient ça devient normal, en fin de compte, qu'on utilise les élections, mais en réalité, les chiffres, les bases de données, avec l'informatique et tout, on peut faire du n'importe quoi. Donc aujourd'hui, il y a eu des retours pour dire qu'effectivement, ça a été truandé, mais que, sauf que c'est bloqué au niveau juridique aujourd'hui, parce qu'il y a un gros problème. Quoi. Donc ça veut dire que tant que la population, et ça j'en suis persuadée, tant que la population ne se bougera pas, eh bien, on continuera d'avoir face à nous eh bien, un impérialisme capitaliste, quoi, puisque en réalité les gens qui nous dirigent, mais c'est les premiers à faire en sorte que les règlements, quand vous parlez de normes, mais les normes c'est pas les gens qui le décident, ce sont les lobbies économiques qui imposent certaines normes qui arrivent, mais en réalité c'est pas des normes pour améliorer, c'est des normes pour faire vendre certains produits. Donc du coup, moi je suis quand même assez éberluée, bon, parce que justement moi je fais partie de ces gens mais qui vont quitter la ville effectivement, parce que j'en peux plus de vivre comme ça, puisqu'en réalité, je m'aperçois qu'on a tout démantelé, on a tout cassé. Et donc, moi, effectivement, je reviens dans le rural, mais sans être vraiment dans le rural, c'est un bourg, et je reviens sur une maison ancienne pour faire de la rénovation. Mais c'est vrai que faire de la rénovation, ça demande des compétences, de l'argent et de l'entraide entre les gens. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut revenir à cette zone d'entraide. Parce que quand vous dites que ça coûte cher, oui, ça coûte cher dans notre mode de fonctionnement actuel. Mais parce que tout. C'est pour ça que moi, je pense qu'il faut vraiment repenser notre modèle de développement qui complètement va dans un trou. Parce que malheureusement, enfin, moi, je ne sais pas, vous n'en parlez pas, mais le capital tel qu'il fonctionne aujourd'hui, eh bien, on a la fin de notre civilisation. Enfin, on est en train de vivre la fin du capitalisme. Mais il faut, pour qu'il ne fasse pas trop de dégâts, il faut que les citoyens se prennent en charge et réfléchissent à notre manière de penser, d'habiter, de vivre le quotidien. Quoi. Donc moi, je vais encore plus loin. Je dis que il faut oui, effectivement, utiliser ce que vous dites comme un outil, mais aller au-delà et dire, nous, ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est qu'on veut, nous, avoir le pouvoir, reprendre le pouvoir, c'est-à-dire le peuple, et non pas les gens qui sont élus, qui, eux, pensent d'abord à leur intérêt propre. Quoi. Voilà. Alors, moi, je voulais savoir, justement, si vous aviez mis l'accent dans votre livre sur le fait que le côté écologique de ce type d'urbanisme qu'on a aujourd'hui. Voilà. Parce que moi, quand je vois, ils construisent toujours les mêmes choses. Toujours, quand je vois comment ils construisent, c'est catastrophique. Moi, il vaut mieux pas acheter dans le neuf, je vous assure. C'est pas pérenne. Hein. Ça dure juste 10 ans, la décennale, c'est tout, hein, pas plus.
Ouais, alors, il y a plein de choses. Premier élément, autour des questions de rénovation, de démolition, il y a un chapitre qui est écrit par Laetitia Mongeard sur le business autour de la démolition, et notamment sur les entreprises spécialisées autour de la démolition, la valorisation des gravats. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose de plus écologique, ou est-ce que c'est juste des questions économiques ? Donc il y a aussi cette question-là qui est que quand on construit la ville sur elle-même, on génère des déchets. Qu'est-ce qu'on en fait ? Des déchets, des graves, qui ne sont pas forcément des... Enfin, ça peut être des déchets. Enfin bref, c'est expliqué dans le chapitre. C'est compliqué. En fait, ils peuvent avoir différents statuts selon le type de déchets. Et là aussi, il y a un business avec des entreprises spécialisées et ainsi de suite. Donc ça, c'est le volet plutôt démolition de la rénovation. Après, il y a en effet le volet plutôt requalification, réhabilitation, qui est un petit peu différent. Au niveau des questions de normes et autres, là aussi, ce qui est intéressant, c'est que les normes, ça s'inscrit dans un système de production. Par exemple, si on prend les normes pour les écoquartiers, il y avait des normes pour être labellisé écoquartier. C'est-à-dire que souvent, le quartier se déclarait écoquartier, puis ensuite, il était labellisé écoquartier. Donc, en effet, il y a des normes qui, en effet, peuvent avoir un rôle que vous décrivez, qui est la question de l'homogénéisation. Est-ce que les écoquartiers finissent pas tous par se ressembler parce que finalement, c'est une boîte à outils, clés en main et autres. Donc, dans l'ouvrage, on essaye un peu de décrypter cette problématique d'homogénéisation des paysages urbains. Parce qu'en effet, on a des acteurs qu'on retrouve dans plusieurs villes, enfin dans de nombreuses îles, voire dans plusieurs pays pour certains. Donc voilà, on aborde ça aussi comme question, c'est est-ce qu'on va vers des villes homogénéisées ? La réponse, c'est non, c'est plus complexe que ça. Pour une raison simple, c'est que le capitalisme se nourrit aussi de la différence. C'est-à-dire qu'il faut toujours montrer en quoi le projet urbain, il est pareil, mais pas pareil que les autres. Parce que c'est comme ça que vous générez aussi de la plus-value. Et un bon exemple de ça, c'est qu'on va souvent s'acheter des noms, ce qu'on appelle parfois les star-architectes. C'est-à-dire qu'il faut telle signature. Et juste par la signature, on est dans le capital symbolique, ben, les gens seront prêts à payer plus. Donc voilà, l'homogénéisation, oui, mais le capitalisme aime aussi la petite différence qui fera qu'on va choisir d'investir dans cet immeuble plutôt que dans l'autre. Donc ça, c'est un élément important. Enfin, pour ce qui est du discours politique, je pense qu'en effet, ce qu'on montre souvent, c'est qu'à la base, c'est des pressions des habitants et des habitantes. Je pense notamment au chapitre sur la vacance, où on aborde la question des squats. On a déjà parlé de Airbnb, où là, c'est des pressions citoyennes aussi. Enfin, voilà, ce qu'on note, c'est que c'est en effet souvent les remises en cause du système viennent plutôt des citoyens et des citoyennes, plutôt par le bas, souvent structurées autour d'associations. Donc c'est souvent, en effet, à ce niveau-là qu'il y a des demandes pour repenser le modèle dominant, le système auquel on fait face. Et on le voit bien notamment autour aujourd'hui des jardins à défendre, par exemple, où on est bien là souvent dans des mobilisations à l'échelle du quartier ou à l'échelle de pratiques, de réseaux de sociabilité, qui, comme on peut le voir aujourd'hui au Jardin des Vertus, arrivent à bloquer des projets, y compris autour des Jeux Olympiques, où là on est clairement dans la ville néolibérale, la ville de l'offre. Donc là aussi, on n'est pas dans un rouleau compresseur à 100%, c'est possible. Et puis un dernier élément que je n'ai pas donné encore et qui me semble important, c'est que des fois, le capitalisme, il se plante tout seul. Des fois, on n'a pas besoin de l'aider. Et je pense notamment au chapitre sur la rente foncière qui montre très bien, notamment autour des questions de Perpignan et de la gare TGV, comment des fois on construit des super centres commerciaux et puis au fait, au bout de 10 ans, il n'y a quasiment plus de commerce. Donc là aussi, on dit toujours, enfin on a une vision du capitalisme comme... finalement, objet omniscient et omnipotent, mais le capitalisme, il porte en lui ses crises. Souvent, il les résout. C'est ce qui fait sa force. C'est-à-dire qu'il se renforce en résolvant ses propres crises. Mais des fois, il n'arrive pas à les résoudre. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des espaces vacants, des espaces délaissés et autres. Donc, par rapport à ça, c'est bien aussi le message que si c'était un vrai rouleau compresseur qu'on ne pouvait rien faire contre lui, ben, finalement, il n'aurait pas ses propres échecs. Et on voit bien que quand même, régulièrement, le capitalisme achoppe sur son propre terrain.
Moi, je voulais amener une autre question parce que j'ai vu... je me réfère à ma ville parce que c'est ce que je connais. J'ai vu aussi des quartiers qui ont été achetés petit à petit. Il y avait un palais qui a été acheté, un immeuble, un autre, et ça depuis très longtemps. 20 ans, étalé sur 20 ans, petit à petit, il y avait un quartier qui était acheté par des Américains. Et c'était un groupe qui l'achetait. Et en fait, ça me fait penser, et aussi, par exemple, quand moi j'ai acheté un appartement dans un quartier qui était assez central, sauf que personne ne voulait y habiter parce qu'il y avait du trafic de drogue et tout. Il y avait un coin. Et quand j'y suis habitée, il y avait moi et il y avait quelques amis on était des fauchés. Et c'est pour ça qu'on habitait là. Parce qu'on aimait la ville, on voulait quand même être assez central. Et je me rappelle quand j'ai habité, pour faire la pub, on m'a dit, mais là-bas, il va y avoir un hôtel de 5 étoiles. Moi, j'étais loin d'y croire parce qu'on n'osait presque pas entrer dans ce coin-là. Et pendant très longtemps, j'essayais de faire venir des amis. Personne ne voulait parce que tout le monde avait peur. Il y avait des seringues et tout, bon bref. Effectivement, aujourd'hui, il y a un hôtel de 5 étoiles. Et c'est Intendent. Et du coup, je me dis, ces choses-là, ces transformations, elles sont souvent pensées à l'avance, souvent pensées à 20 ans. Et du coup, on a l'idée que le capitalisme, c'est quelque chose qui est très immédiat. Mais je pense que c'est peut-être un peu simple. Et du coup, si on veut proposer autre chose, est-ce qu'on ne pourrait pas... essayer d'étudier, de penser à plus long terme, parce que aussi très souvent les résistances, les mouvements, ils sont aussi dans l'immédiat. Et du coup, un petit peu aussi dans la frustration, parce que c'est trop tard. Et est-ce qu'on, je sais pas s'il y a quelque chose à faire où on peut se projeter à plus long terme. Je pense à l'habitat participatif, mais peut-être à d'autres choses aussi, mais qui soit quelque chose de vision plus large.
Oui, ouais, c'est un point vraiment intéressant que vous soulevez. C'est vrai que souvent, on a cette impression que le capitalisme, il est immédiat. Et en effet, y compris dans les phénomènes de gentrification, c'est progressif. Ça part souvent un peu par mitage, quoi. C'est un peu le principe du gruyère. Et en effet, je pense que votre retranscrit, à mon avis, est le bon. Ce qui est intéressant aussi, c'est, qui est lié à ce que vous dites, c'est comment on va construire de la désirabilité et de l'indésirabilité. Et si on prend l'exemple que vous décrivez, notamment avec, à la base, des pratiques du quartier, on va dire, différentes, en tout cas non conformes aux normes majoritaires, que ce soit la drogue ou d'autres usages de l'espace public. Souvent, quand on va essayer de reconstruire une image de ce quartier-là, souvent les premières personnes qu'on va stigmatiser comme indésirables, qu'on va essayer de déplacer, ce sont ces populations-là, liées à la drogue, liées au travail du sexe, ainsi de suite. Et j'ai envie de dire que quand on voit ces populations qui commencent à être catégorisées comme indésirables, déplacées, soumises au contrôle policier et ainsi de suite, ben c'est peut-être qu'il se passe quelque chose et qu'en écoutant ou en regardant ce que subissent ces gens-là, on voit comment on est en train d'essayer d'agir sur la désirabilité. Et ça, c'est quelque chose qui est important, c'est que souvent, on va stigmatiser à tort, enfin, on va stigmatiser certaines personnes qui ne sont pas dans le modèle dominant. Mais en fait, ça va être les premières, souvent, personnes touchées par ces dynamiques-là. Et en regardant ce qu'il advient de ces personnes, notamment, voilà, je pense à tout ce qui est contrôle et autres, on voit souvent quelque chose de... Voilà, on sent des choses, je pense par exemple à ce qui se passe actuellement à Porte de la Chapelle à Paris ou à plein d'endroits où ces pressions, ces contrôles nous annoncent probablement une désirabilité capitaliste en train de se construire. Donc ça aussi, je pense qu'il faut aussi ne pas hésiter à déplacer la focale et se dire, là, on est en train de violenter, d'opprimer des indésirables. C'est probablement une marche vers quelque chose qui risque d'être un peu plus forte, brutale et ainsi de suite. Donc ça aussi, je pense que c'est quelque chose à avoir en tête. Et ça, on le voit quasiment dans tous les projets de renouvellement urbain. On s'en prend d'abord aux indésirables, et arrive souvent derrière des investisseurs et autres.
Je crois que ce qui est important aussi, c'est de ne pas confondre le capital et les capitalistes. C'est-à-dire que le capital, c'est avec la propriété, la marchandise, etc., il a le temps. Et il va produire des choses parce que finalement, c'est le cadre du jeu. Et après, les joueurs, ils changent. Il y en a qui perdent, il y en a qui tombent. C'est comme le championnat de foot, quoi. Ça change d'équipe, mais il y a toujours le championnat de foot. Il y a toujours la coupe à la fin. Mais les règles, etc., ce qui fait le championnat de foot, c'est tout ça. Et je pense que c'est ça aussi le problème. Et en tant qu'habitant, habitante, dans un endroit, c'est problématique parce que nous, on habite au jour le jour. Nous, c'est tous les jours qu'il faut qu'on habite, qu'on mange, qu'on aille faire des courses, etc. Et donc, si à un moment, le quartier, il n'y a plus rien pour faire les courses, on n'a plus envie d'y être. Même si le quartier, dans 10 ans après, il est chic-chic. Mais la vie, elle est dure à ce moment-là. Et si on n'a pas les épaules, eh ben, même si on est propriétaire, des fois, on s'en va. Etc., etc. Et c'est pour ça que cette question de mécanique du capital dans l'espace, et l'espace comme mécanique, je pense qu'elle est intéressante, et elle se traduit justement sur le long terme. Et c'est hyper important parce que sur les projets, à quel moment on intervient, à quel moment on est, etc., c'est cette question de l'immobilier dégradé dont vous parliez tout à l'heure, c'est à un moment, l'immobilier dégradé, c'est pas un point de départ, c'est déjà un point d'arrivée. Et si on ne comprend pas avec ce point d'arrivée, on n'arrive pas à comprendre c'est quoi exactement la dynamique. Et finalement, on lutte contre quelque chose en particulier. Et sur la question des possibilités, en Uruguay, un petit pays d'Amérique latine, dans les années 60, qui n'était pas très reluisante, il y a quand même une loi qui passe, qui autorise les coopératives par aide mutuelle, pour une partie qui autorise les coopératives de logement, et notamment les coopératives par aide mutuelle, c'est-à-dire des prêts garantis par l'État, des prêts donnés par l'État, et l'apport est donné sur condition de ressources, c'est-à-dire pour des gens qui n'ont pas beaucoup de ressources, par le travail et l'aide mutuelle. Mais ce que font aussi les gens dans la législation, ils se disent, ça serait de la propriété collective. Parce que le problème, si on fait de la propriété privée, dans 10, 20, 30 ans, à la faveur de la mort ou à la faveur de quelque chose, la propriété est revendue et c'est perdu. C'est perdu pour les classes populaires. Si on fait de la propriété collective, et ben c'est de la propriété qui sort du marché et qui devient en permanence un outil et un espace pour les classes populaires. Et c'est là où... Et ça, c'est la législation. Et après, c'est rendu possible par la pratique de personnes qui s'organisent pour construire, etc. Et je pense que c'est un bel exemple de voir à un moment comment est-ce qu'on peut récupérer aussi à un moment effectivement sur le temps long. Mais pour ça, il faut analyser. C'est-à-dire que c'est pas simplement trouver un habitat aujourd'hui et maintenant, c'est à un moment sortir des espaces de cette mécanique. Et pour les sortir, il faut comprendre cette mécanique, qui est notamment celle de la propriété privée, qui est pas suffisante. C'est-à-dire que là on n'est pas sorti de la propriété privée, on a une propriété privée différente. Peut-être le débat qu'on a eu tout à l'heure sur la multipropriété, etc. Mais et encore, et c'est là, bon voilà, peut-être en mode conclusion sur le livre, c'est-à-dire vraiment découper, comprendre les mécanismes pour savoir où intervenir, comment, parce que c'est complexe, quoi. Notamment, moi je reviens sur la gentrification. La gentrification nous pose un problème avec cette histoire de désirabilité. Si on rend un endroit désirable, les riches vont arriver, vont tout racheter vers la gentrification. Qu'est-ce qu'on fait alors? On rend tout pourri. On peut pas faire un truc un peu sympa là où on habite. Donc à un moment, il faut qu'on articule quand même de prendre soin des endroits où on habite avec les gens avec qui on est, mais qu'en même temps, ça soit pas un facteur demain de rente, etc. derrière. Et donc voilà, comment est-ce que on peut faire ça et à quoi on est. Et à Lisbonne, par exemple, je me dis, s'il y avait plus d'avions, je pense que ça serait une catastrophe pour ce qui existe. Mais maintenant que les logements sont refaits, ils seraient pas chers pour les gens, ça serait parfait. Bon, les aéroports, des fois, ça se construit pas. Un mot de la fin ?
C'est à toi de conclure. Non, merci beaucoup d'être venu. N'hésitez pas si vous avez des remarques plus à faire en off derrière. Puis voilà, je suis ravie d'avoir découvert Toulouse, qui a l'air de ressembler à quand même pas mal de choses qu'on décrit dans le bouquin.
Ah ouais, mais en mieux.
En mieux, en mieux.
Et donc, samedi 28, si vous voulez voir justement comment le capitalisme rate les marches, mais des fois, des gens vivent dans les ruines laissées par le capitalisme. Voilà. Merci beaucoup.
C'était Rencontre avec Emeline Combi, autour du livre d'Emeline Combi et Mathieu Adam, Le Capital dans la Cité, par nos éditions Amsterdam.
Radio Livre d'Or.